Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour, je suis aujourd'hui chez Time to Sign Off avec Romain Dossal. Bonjour Romain.
Bonjour.
Alors avant de te demander rapidement de te présenter, je voudrais juste dire à tout le monde que je n'ai pas posté la semaine dernière parce que le boulot, la fin d'année, le mois de juin arrivant, on a beaucoup tous de travail et voilà, et je suis à la bourre dans mes épisodes, mais c'est aussi ça le podcast de manière un peu plus artisanale. Et là, ça revient et j'arrive aujourd'hui avec un invité spécial, extraordinaire, Romain, qui est le fondateur de Time to Sign Off, qui est aujourd'hui vraiment la newsletter que personnellement je lis tous les jours religieusement, et je sais que je suis pas le seul. Tu vas nous en parler. Romain, je peux te demander de te présenter?
Ouais, je m'appelle Romain Dossal, j'ai 51 ans, je dois bien admettre. Je suis le fondateur de Time to Sign Off. J'ai créé Time to Sign Off, ça sera la 7e rentrée en 2018. Et mon background est plutôt avant ça essentiellement dans les médias, et voilà, et c'est, j'imagine, ce dont on va parler.
D'accord. Et donc toi, tu es parisien?
Ouais, je suis né à Paris. J'ai été élevé, j'ai grandi dans le 5e arrondissement. Et je suis un produit assez typique de l'éducation, d'une éducation et d'une enfance parisienne.
Rive gauche.
D'accord.
Très bien. Nous, on se connaît depuis quelques années. J'ai eu la chance de te connaître. Alors, je pense après avoir commencé à lire Time to Sign Off. C'est vraiment un objet, on va dire, numérique et médiatique un peu à part. On va rentrer un peu dans le détail. Mais avant d'arriver là-dessus, je voudrais comprendre comment t'es arrivé sur Time to Sign Off professionnellement. T'as fait quoi comme études? T'es arrivé, comment t'as commencé ta vie professionnelle?
Effectivement, Time to Sign Off est le résultat, est vraiment le résultat d'un cheminement professionnel et un peu d'un cheminement personnel. Bon, j'espère que on va pas perdre tous tes auditeurs, mais je vais effectivement parler un peu de moi.
Donc je suis c'est né, le but, je te rassure.
Je suis né dans le 5e arrondissement. J'étais élève dans une école emblématique de la rive gauche, puisque j'étais élève de l'école alsacienne. J'ai fait toute ma scolarité. Ensuite, je suis rentré dans une école encore emblématique de la rive gauche, puisque je suis rentré à Sciences Po. Et tout ça m'a pas mal marqué. De Sciences Po, où je me destinais plutôt aux carrières du service public, mais j'ai eu 5 au grand taux de l'ENA, donc j'ai dû assez vite me réorienter. Et donc de
Sciences Po. Je t'arrête là-dessus, ouais. Parce que justement c'est quand même intéressant à voir, parce que donc tu commences école alsacienne, qui est quand même très prestigieux, et bon, enfin, en tout cas, je te vois faire une grimace très marquée, en tout cas très marquée. Sciences Po, t'as quand même un parcours un peu d'excellence, au moins là-dessus.
Non, j'ai un parcours assez typique d'une famille de la petite bourgeoisie intellectuelle de la rive gauche. Sincèrement, je peux pas prétendre à l'excellence, mais j'ai un parcours assez typique, dont je n'ai pas à rougir, mais qui
faut quand même rentrer à Sciences Po. C'est à
Paris, bien sûr. Mais une des caractéristiques de la petite bourgeoisie intellectuelle, c'est que c'est une classe. La caractéristique de la petite bourgeoisie, c'est une classe de transition. Donc c'est une classe qui va vers l'élévation sociale. Et la caractéristique de la frange intellectuelle de la petite bourgeoisie, c'est de s'élever par les diplômes. Donc c'est toujours très important. Donc c'est un parcours plus typique parce que c'est un parcours très déterminé, très marqué, qu'un parcours qui ferait de moi quelqu'un de particulièrement méritant. Sincèrement, j'ai pas de prétention de ce point de vue-là.
Et du coup, tu te retrouves. Alors c'est bien de. Je trouve ça intéressant cette forme d'introspection. J'ai plein de questions du coup qui me viennent après tout ça. Mais du coup, je pense quand même que quand t'es dedans. Et que t'as 21 ans, 22 ans, que t'es à Sciences Po, que tu présentes l'ENA, tu te dis pas, enfin, comme tu le dis aujourd'hui, le 5 au grand oral, ça te fait chier. Enfin, je veux dire, c'est ta première claque de ta vie.
C'est ton premier échec, oui, absolument. Ouais. Oui, c'est ton premier échec. Oui, je me souviens encore de ma note. Donc, bien sûr, c'est une expérience qui te marque. Oui, ça, c'est certain. Et donc après ça, j'ai fait un master, etc. Peu importe, mais je suis rentré dans le conseil en stratégie parce que j'ai voulu faire exactement. Je me disais un parcours d'excellence là pour le coup, c'était ça parce que c'était assez prestigieux le conseil en stratégie. J'ai fait du conseil en stratégie dans un grand cabinet
que tu veux pas nommer.
Bien sûr, qui s'appelait Bossard Consultant, qui est une super boîte, qui est maintenant Gemini Consulting, je crois.
D'accord.
Et donc j'ai fait ça. Et puis quelques années après,
c'est quoi le conseil à cette époque-là? C'est-à-dire tu te retrouves dans des grosses boîtes à leur dire ce qu'il faut faire ou
faire des analyses qui président effectivement à la prise de décision.
D'accord.
À la prise de décision de réorientation de business ou d'optimisation de business. Donc c'est un boulot de conseil qui est encore
marquant, intéressant, passionnant.
Intéressant, très intéressant parce que c'est un boulot très analytique. Donc moi je suis pas très analytique. Je suis très synthétique, mais pas. Je suis vraiment bon en synthèse. Je suis vraiment assez mauvais en analyse d'un point de vue analytique. Donc c'est un boulot très analytique, donc cette partie-là, vraiment, j'excellais pas, et je suis pas sûr que j'adorais cette partie-là. En revanche, Bossard était une boîte de polytechniciens, donc effectivement très analytique, mais une boîte avec une très forte culture d'ingénieur, et ça j'adorais parce que il y a quelque chose qui est important pour moi, qui est l'humilité. Et la culture d'ingénieur est une culture de non-arrogance complète. On peut dire ce qu'on veut des ingénieurs, et on a dit, leurs travers sont très documentés. Néanmoins, ce côté, aucune arrogance, m'a énormément plu. Ce qui, d'ailleurs, a fait, je fais la transition avec ça, que quand je suis rentré dans la publicité, parce que j'étais débauché de ce cabinet pour rentrer dans la publicité, parce que c'était l'époque où la publicité commençait déjà à dégringoler la chaîne de la valeur ajoutée et se disait on va embaucher des consultants pour essayer de muscler l'offre. Quand je suis arrivé dans la publicité, j'ai mis un an à comprendre ce métier. Je ne comprenais rien parce que alors pour le coup la culture de l'arrogance, allons-y. Ouais. Et surtout c'est la culture du conflit parce que comme c'est la culture de l'impact, c'est la culture du conflit. Et je ne comprenais rien à ce métier, Donc j'avais été recruté par une agence assez star à l'époque qui s'appelait Devarieux Villaret, qui était montée par deux types très très brillants, Villaret qui arrivait de la Young et Devarieux qui arrivait de chez CLM. Je comprenais rien à Benoît Devarieux en particulier, qui était une sorte de Gainsbourg éruptif. Je pigeais rien. Bon, Jean-Pierre Villaret, ça allait mieux parce qu'il avait un côté plus policé et qui me correspondait mieux. Et donc j'ai mis un an à comprendre, à vraiment être très malheureux, à rien comprendre, etc. Et puis au bout d'un an, j'ai compris comment ça marchait. Puis ça a pas mal marché parce que je suis devenu assez le patron DG de l'agence. Et en même temps, cette agence qui était de plus en plus détenue par des paliers successifs par Havas, je me suis beaucoup intéressé à l'intégration de cette agence dans Havas, l'intégration de cette agence dans un réseau, elle faisait partie des agences de forte importance non alignées au sein d'un réseau international, et Havas à ce moment-là faisait des acquisitions plutôt malheureuses, mais a fait des grosses acquisitions aux États-Unis et a constitué un réseau d'agence non alignée à partir d'une très grosse acquisition aux États-Unis qui s'appelait l'agence Arnold. Et le réseau s'appelait Arnold. Et j'ai été recruté par le président d'Arnold aux États-Unis pour devenir le directeur général du réseau aux États-Unis. Donc, je suis parti aux États-Unis.
Donc là, t'as quel âge?
Là, j'ai 33-34 ans. Ouais.
Donc il y a pas tout à fait 20 ans, mais je voudrais juste, parce que je t'ai pas coupé, je voulais faire un tout petit point. Après, je vais oublier sur cette culture des ingénieurs et potentiellement des agences de pub et culture de l'arrogance.
Non, c'est pas une culture de l'arrogance, une culture de l'impact.
De l'impact.
Mais il y a une forte composante d'arrogance dans le côté négatif du. Mais c'est une culture de l'impact, pas une culture de l'arrogance. Hein.
Alors j'ai plein de choses à dire là-dessus et qui m'intéressent particulièrement avec toi, notamment sur le point spécifique des ingénieurs, il y a quand même chez certains ingénieurs, alors après est-ce que c'est mais une forme de culture d'avoir raison, enfin de manière empirique, je le vois dans le digital, on va souvent avoir des directeurs techniques ou des gens qui disent bah si ça marche, tu vois. Et puis en fait on leur montre que c'est sur un autre, enfin il y a quand même un côté très rationnel empirique sur est-ce que c'est spécifique ou est-ce que c'est peut-être
je sais pas, moi je te dis j'avais pas senti ça, j'avais senti une espèce de modestie, d'attitude qui me plaisait beaucoup,
que je trouvais
extraordinairement plaisante et du coup rejaillissant sur ce qu'était l'ambiance de cette boîte. Alors on a toujours un peu tendance à idéaliser sa première boîte et c'est le cas parce que c'est une période très sympa dans ta vie. Mais donc voilà, ouais.
Et alors après je voudrais sur un cas plus personnel et en ce qui te concerne, je trouve que l'approche de l'humilité, de l'arrogance avec toi, elle est à la fois assez, on a déjà touché du doigt un peu dans des discussions qu'on a pu avoir ça, mais assez spécifique parce que t'as un côté assumé un peu vieille France sur certaines choses. Non, mais je sais pas s'il est assumé, mais tu vois ce que je veux dire, non?
Je vois pas ce qu'il y a en moi, vieille France. Non, ah, monsieur et madame TTSO.
Ouais, les monsieur et madame TTSO, des petits, dans l'habillement, des petits foulards de temps en temps, des petites choses un peu, et à la fois même une stature, une manière de parler. En fait, tu m'as répondu une fois et moi je t'ai jamais trouvé arrogant, notamment avec moi. Mais je t'ai vu assez facilement, potentiellement, te mettre assez vite dans des positions qui pouvaient me sembler un peu arrogantes avec d'autres personnes. Et tu m'as répondu très récemment, je m'adapte à mes interlocuteurs.
Non, vraiment, sincèrement, j'en serais désolé parce que c'est marrant que cette conversation revienne parce que c'est quelque chose de très important pour moi.
Ouais.
Mais effectivement, j'ai par ailleurs pas le cuir très épais je réagis et je traite les gens comme on me traite.
Et comme tu le dis, c'est pas très épais, ça vient au quart de tour, c'est-à-dire.
Ouais, le fait d'être, j'espère d'être modeste, enfin d'être exactement, enfin il y aurait aucune raison de ne pas l'être d'ailleurs. Ne fait pas que je suis que je courbe les chines. Ça ne veut absolument pas dire ça.
Mais moi, je pense que pour te connaître un petit peu, on n'est pas meilleurs amis du monde, hein. Mais je pense que tu es assez modeste, mais tu le parais pas de prime abord.
Alors,
je sais pas si tu t'en rends.
C'est désolant, mais de toute façon. Ouais, de toute façon, le propre de la modestie, c'est pas non plus de la porter comme un étendard. Donc
non, c'est vrai. Donc, parce que l'humilité arrive assez rapidement et voilà. Donc et du coup, en effet, c'est quand même deux chocs gigantesques de culture parce que un Capgemini et un De Varieux-Villaret ou Abbas, c'était quand même des univers.
Ouais, c'était très différent.
Et t'es accepté comment là-dedans?
C'est une cour de récré, hein, en réalité, une agence de pub et en particulier De Varieux-Villaret, qui était un grand open space où il y avait 130 personnes. C'est absolument une cour de récré. Donc, quand tu comprends pas ça, t'es très malheureux parce que t'es le petit chose. Si tu montes de la faiblesse ou de l'incompréhension, C'est très difficile. Il y a aucune espèce de gentillesse ou de douceur. C'est une cour de récré. Bon, une fois que t'as compris que c'était une cour de récré, sans devenir un caïd, tu comprends parfaitement comment le truc marche. Ça m'a pris beaucoup de temps, hein. Mais une fois que j'ai compris comment ça marchait, bon bah voilà, je me suis très très bien entendu, très 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 bien, une très très grande révérence intellectuelle pour Jean-Pierre Villaret, très grande. Et je me suis très bien entendu, mais alors surtout une fois que j'ai cessé de bosser pour lui et avec lui, je me suis très bien entendu avec Benoît Devarieux. Mais ça a pris un peu plus de temps.
et du coup,
je m'entends très bien avec Benoît.
T'es dans une boîte de créa, hein, principalement.
Ouais, très créatif.
C'est pas de la chaîne Espace.
Ouais. Non, c'est créa.
Vous créez des campagnes de pub, donc qui sont encore dans cette époque-là principalement télé, presse.
Ouais. Il y a le net n'existe pas. Le net n'existe pas. Le net va commencer à exister. On sera un peu en avance de phase parce qu'on avait des clients dans la tech, etc. Mais on est au tout début. On est absolument au tout début. Donc je pars.
Tu t'y intéresses pas plus que ça, toi, d'ailleurs.
Si, bien sûr, parce que je monte une filiale de Devarieux Villaret. Comme tous les clients du net étaient se constituaient comme des versions online des clients existants, on avait des problèmes de conflit épouvantables. Donc j'ai monté la filiale net de Devarieux Villaret qui a absolument cartonné. Donc parce que c'était la fin des années 90 jusqu'à l'éclatement de la bulle et ça a fait ça a participé à mon succès dans cette agence. C'est que j'avais vu ça, j'étais plus jeune que Jean-Pierre et Benoît et je me suis mis sur ces clients dont je parlais plus le langage qui généralement d'ailleurs venait déjà à l'époque dans cette première vague de l'internet. Venait souvent du conseil en stratégie, était exactement comme ce qu'il y a maintenant. Le profil du patron de start-up est un profil assez bourgeois, assez diplômé, etc. C'était le même cas comme j'avais un peu un background cohérent avec ça. Je parlais le même langage, donc ce truc avait très bien marché. Donc voilà. Mais sur ces entrefaites, donc je pars aux États-Unis, très content de partir aux États-Unis. Je pars aux États-Unis au moment, en faisant démissionner femme et en prenant enfant sous mon bras, au moment où la bulle Internet explose. Donc je me souviens très bien, j'arrive aux États-Unis, mon bureau était à Boston, parce que c'est le headquarter était à Boston. J'ai un bureau comme j'en avais jamais eu avant et comme j'en ai jamais eu depuis, c'est-à-dire un bureau de patron du CAC 40 avec tous les attributs qu'on peut imaginer à ça. Et donc j'arrive le premier jour au bureau, je m'en souviens très bien. Ma secrétaire avait déposé toute la presse bien ordonnée sur une table basse dans mon bureau et
On est à quelle année, tu dis ?
On est en 2001. 2001.
Avant le 11 septembre.
Oui, absolument. On est 1er janvier 2001, là.
OK.
On est 1er janvier 2001. Et titre de Advertising Age, donc la plus grosse publication de l'industrie. The party is over. Donc, la fête est finie. Et en disant, bon, bah, ça y est, on s'est gavé avec le boom du marketing online, du marketing pour les dot-com, etc. Ça a explosé. Et effectivement, c'était le début de la crise, une crise ultra violente. La publicité est toujours overshoot, toujours la croissance. Donc, elle l'overshoot en période de croissance et aussi en période de décroissance. Donc, ça a été encore plus violent pour la pub.
Je reformule ce que tu dis, c'est que quand on est dans un grand groupe, le truc le plus facile à couper quand t'as des dépenses,
c'est le premier truc.
Ça a pas de coût humain, ça a pas de coût, voilà. Donc
c'est ce dont on a fait l'expérience. Et moi je me suis dit, donc je suis parti à Boston, etc. En laissant tout derrière, et donc je vais me faire virer dans les 15 jours. Et alors ça n'a pas été le cas. Mais ce job qui était un job de directeur général de division et qui devait être un job de développement, c'est révélé être un job
décroissance
de boucher, quoi, mais hyper intéressant. vraiment hyper intéressant. Moi, je connaissais pas très bien la finance, les aspects financiers de ce métier. Pendant 5 ans, j'ai fait une ou deux acquisitions, mais j'ai vendu des boîtes, j'en ai restructuré, j'ai remis des boîtes vraiment. On a sauvé des boîtes. Il y en a certaines qu'on n'a pas sauvées d'ailleurs. On a fait deux deals en Chine. C'est devenu un job, plus un job de super directeur financier qu'un job de directeur général. Mais j'ai trouvé ça absolument passionnant.
Donc là, c'est ta trentaine, ça, à peu près.
Enfin, ouais, ça, c'est entre 30 et 40, ça.
Ouais, donc c'est une belle époque de ta vie où tu poses pas mal de bases.
Ouais.
Et du coup, tu gères Arnold, c'est ça?
Ouais.
Mais
ouais.
Worldwide?
Ouais, on est dans 15 pays dans le monde, donc je voyage beaucoup.
Les gens qui bossent pour toi, qui t'entourent, c'est des Américains principalement?
Ouais. Mon équipe est entièrement américaine. Alors j'ai déjà ensuite délocalisé. J'ai aussi la responsabilité du new business pour le truc. Ce qu'on a fait, ce qui était assez intelligent, parce qu'on n'a pas de contrôle sur les agences. Sinon, on a dit qu'on allait payer une personne dans l'équipe new business de chaque grosse agence où on pouvait générer du business. Donc ça te donne un vrai levier sur les organisations. Mais c'est vrai que 80% de l'équipe, sinon, était à Boston avec moi.
Tu voyages tout le temps.
Je voyage tout le temps, ouais. Ouais, je voyage tout le temps. À tel point que après 4 ans de Boston, je dis à mon patron avec qui je m'entendais hyper bien. Je me suis pas toujours très bien entendu avec mes patrons, mais je m'entendais hyper bien avec celui-là, qui avait 30 ans de plus que moi, qui était un mec extraordinaire, absolument extraordinaire, qui avait fortune. Ed Escandarian, qui est une légende de la pub aux États-Unis, qui est un Arménien première génération, qui fait Harvard à la force du poignet, qui va rentrer dans la pub dans les grandes années de la pub et faire une fortune en rachetant des boîtes petit à petit et faire une fortune absolument colossale. Et c'est un type charmant, extrêmement intelligent, hyper humain. J'adore ce gars. Et donc je dis à Ed, au bout de 4 ans, son bureau était au bout du couloir, le mien était juste celui d'à côté. Je dis à Ed, écoutez, vous n'avez plus besoin de m'avoir dans le bureau à côté. Je vais repartir en France. Surtout que l'économie était repartie aux États-Unis à ce moment-là, qu'elle n'était pas encore repartie en Europe. Donc le vrai boulot était en Europe. Ça sert à rien que je passe toutes mes semaines à l'étranger, que je revienne que le week-end à Boston. Ce à quoi il me dit oui. Et en réalité, c'était aussi parce que je savais que la situation d'Havas à ce moment-là était très compliquée, parce que c'était la lutte Pouzillac-Bolloré. Ouais. Et j'arrive en France. Et là, c'est la catastrophe. Le retour d'expatriation dans une boîte qui n'a aucune culture de l'expatriation, qui est Havas, est une absolue catastrophe. Je gère quelques affaires courantes pendant un an, qui étaient mes boîtes, mais en réalité, j'ai pas de boulot.
T'es un no-bot, quoi.
Absolument. J'ai pas de boulot. J'ai plus mon équipe. Enfin, c'est ma décision d'être revenu en France, et c'est objectivement la décision la plus stupide que j'ai prise de ma vie. Bref.
Et est-ce que juste on peut faire un tout petit point sur ces 4-5 ans qu'on a dû être quand même à Boston? Je voudrais un tout petit peu approfondir, parce que je veux dire, c'est à la fois très formateur et à la fois ça doit te donner une vision de ce que tu veux pas, mais restructurer, structurer, acheter, etc. C'est pas mal l'école de la vie, entre guillemets. C'est-à-dire, moi je vois, nous on n'a pas encore peu acheté d'entreprise, on en a vendu, on a fait des choses, mais il y a quand même du transfert d'humain. C'est que de l'humain, tout ça.
Ouais. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je te dis pas que c'était facile, hein. Mm-hmm. J'ai trouvé ça. Ça a été une période assez exaltée. C'est toujours un peu pénible de dire ça, parce que tu dis ça dans une période. Tu parles d'une période qui était difficile économiquement, mm-hmm. difficile et difficile pour les gens en particulier. Mais j'ai trouvé ça assez exaltant, parce que j'ai trouvé ça extraordinairement intéressant, et je faisais des choses que je n'avais jamais faites auparavant. Et donc voilà. Et autant je peux pas dire que j'étais fasciné par le fond du métier de publicitaire, et je suis pas un grand publicitaire du tout. Mmh. Autant j'ai trouvé ça extraordinairement intéressant d'être patron d'entité. Vraiment très, très intéressant. Retour en France. Bon, donc là, la cata, je fous rien. Il n'y a plus une décision qui se prend chez Havas de toute façon, parce que Pouzilla, qui est absolument tétanisé à l'idée de bouger un chiffre, sachant que Bolloré l'attend au coin de la rue. Et effectivement, de toute façon, les chiffres étant ce qu'ils étaient à l'époque, Bolloré empoche le match.
Toi, concrètement, t'as un bureau?
Oui, oui.
T'y vas tous les jours.
Ouais.
T'as quelques petites missions. Enfin,
je suis président de l'agence en Italie qui était très très déstabilisée, donc qu'il fallait que j'ai absolument sauvé, vraiment. Qui était parce que le patron s'est barré du jour au lendemain, donc avec son nom sur la porte. Enfin, le pire scénario. Donc je reprends l'agence en direct. Ça m'occupe. Ça va m'occuper un an de remettre cette agence sur les rails. Et puis j'ai encore quelques trucs en Chine. Mes meetings aux États-Unis de temps en temps, donc j'ai un boulot, mais enfin bon, je suis pas quand même pas d'une activité incroyablement fertile. Et puis donc Bolloré arrive. On me nomme au comité exécutif d'Havas, mais enfin tout ça est quand même une vaste blague parce que j'ai absolument rien à foutre. Je suis nommé ensuite. Alors je me rapproche des gens des médias parce que je vois que les médias sont. C'est le moment où les médias émergent complètement comme le truc technique en réalité de ce métier. Donc je suis nommé Chief Commercial Officer de la partie média. Donc là, j'ai un job worldwide, etc., mais sans vraie organisation. Enfin bon, bref, j'ai pas de job, c'est horrible. C'est horrible. Je suis très bien payé, mais
c'est pas une vue d'esprit. Tu dis j'ai pas de job.
C'était affreux. Non, mais bien sûr, j'étais en réalité placardisé à très haut niveau, mais et très bien payé. Donc, j'osais pas me poser les questions. Personne ne m'en posait.
Pas politique. Enfin, on placardisait parce que
non, c'est une boîte. C'était une boîte qui était à une époque compliquée. Je m'entends très bien avec Vincent Bolloré. Je m'entends beaucoup mieux d'ailleurs que je me suis entendu avec, enfin bon, peu importe, mais je m'entends très bien avec Vincent, mais Vincent, si tu veux, il fonctionne avec la famille, avec des gens qu'il connaît, avec qui il a hyper confiance, etc. Et moi, je fais pas du tout partie de ces gens-là. Je dis pas du tout par hostilité de la part de Vincent Bolloré, mais je fais pas du tout. Il me connaît pas. Je viens pas. Donc,
On parle souvent par exemple, chez Canal, etc. L'équipe de Direct 8 qui est arrivée chez Canal, on parle des Bolloré Boys. Et
ouais, bien
comme
sûr,
ça,
bien sûr. Mais c'est très, c'est très manifeste. C'est complètement respectable parce que vu ce qu'il a fait, comment il a transformé Havas, on ne peut que respecter ça, tu vois. Donc voilà. Donc j'en fais pas partie. Et puis au bout d'un moment, je prends mon courage à deux mains et j'arrive à sortir d'Havas dans des conditions qui étaient décentes. Et donc voilà.
En quelle année?
J'arrive plus à me souvenir, mais on est pas loin de 2010, quoi.
Et tu pars sans savoir ce que tu vas faire?
Si, bah, je pars, j'avais TTSO en tête, en réalité. J'avais TTSO en tête. TTSO, c'est une conversation de bar, hein.
Ouais.
On regardait les nouveaux business de newsletter. On se disait, c'était aux États-Unis d'ailleurs, c'était à New York. On regardait les modèles américains, Daily Candy, Thrillist, etc. On se dit, et puis on regardait aussi My Little Paris, hein, bien sûr, qui était une exécution française, en réalité, de Daily Candy, bien mieux exécutée que ne l'a jamais été Daily Candy, d'ailleurs. Et donc, on regardait ça, on se dit, tiens, les newsletters arrivent le matin ou dans la journée, il y a peut-être un spot à prendre le soir, ok, qu'est-ce que c'est le réflexe le soir, c'est, avant de se coucher, c'est est-ce que j'ai raté un truc, tu vois, à l'époque, on avait des BlackBerry à molette, tu tournais la molette de ton BlackBerry en se disant quel est l'email important que j'ai raté, et on s'est dit, bon, bah, sur la news, c'est quoi, c'est sur le FOMO, the fear of missing out, qu'est-ce qu'on construit, bah, on construit un truc, c'est la voiture balai de l'information, ce que j'ai raté aujourd'hui, ce que je dois vas pas rater demain, un peu de sexe à la fin parce que c'est la plus vieille idée de la presse. Et
terme et voilà. Important hein, dans la presse et les médias, ce que tu viens de dire, je me pointe le doigt dessus, hein, le FOMO aidant aussi les investisseurs en ce moment, il y a une grosse folie du venture capital, etc. Donc toutes les startups jouent sur le fameux FOMO, donc fear of missing out, la peur de louper quelque chose, quoi.
Ah bah ça c'est marrant. Et je suis comme Monsieur Jourdain, moi. Vas-y, continue.
Et du coup, le ce qui est intéressant dans ton parcours et ton idée à l'époque, c'est que, alors, moi, j'ai l'impression, et ça, tu le vois peut-être pas, je sais pas si on te l'a probablement dit quand même, mais que cette idée de la newsletter de fin de journée pour arriver à un dîner, je pense qu'il y a 400 000 personnes qui l'a eu.
Ouais.
Et donc c'est que une question d'exé, on en parlera après. Mais j'ai eu l'impression d'en parler quatre fois, et même je pense que TTSO était déjà lancé, je te connaissais pas encore, et je me disais putain, il faut absolument avoir ce truc. Et vous avez réussi à le faire. On va essayer de voir comment. Je vais te poser la question de, tu dis on, donc j'aimerais juste savoir qui est on. Et surtout, vous arrivez quand même à un moment où c'est après My Little Paris. Il y a une sorte de contretemps de ouf dans le sens où on était quand même à un moment en 2011-2012 où tu te dis, les newsletters, il y a les réseaux sociaux, il y a Twitter, il y a machin, l'email, il y a Slack après qui arrive, il y a machin. Pour beaucoup d'experts du digital qui sont complètement plantés, l'email.
Bien sûr, mais l'email, ça fait. Bon, on a quoi? On a à peu près une petite trentaine d'années d'Internet maintenant. Si tu regardes 30 ans d'Internet, l'email est l'usage le plus stable de l'Internet. On a prévu on a prédit la mort 100 fois. C'est l'usage le plus simple. Je me souviens très bien, quand j'ai lancé TTSO, le truc, c'était les apps. Donc, comme disait, tu fais pas une app, etc. Alors, au début, c'était par nécessité faisait loi, parce que on n'avait pas le fric pour développer une app. Mais on n'a pas fait d'app, on en a toujours pas. On est toujours sur email. Et ce que je constate, c'est que tout le monde utilise encore son email. En revanche, on a tous réduit nos usages des apps aux trois trucs qu'on utilise, et le reste est relégué dans le fond de notre iPhone sur lequel on ne va jamais faire un tour. Donc
ça, c'est pas des paroles en l'air, hein. C'est tout ce que tu dis est chiffré. On utilise de moins en moins d'apps, on utilise de plus en plus son téléphone, où ça commence à se stabiliser. Mais en revanche, on utilise sur son téléphone Instagram, Facebook, l'email, son agenda, sa banque, quelques outils et Spotify et basta.
Bien sûr. Et donc voilà. Il faut quand même pas exagérer mes mérites. Tu dis on était à contretemps. Non, on n'était pas à contretemps. On n'a pas été si visionnaire que ça. La résurgence du modèle newsletter était déjà well on the way. Était déjà bien lancée aux États-Unis en particulier. Il y avait un fonds média. Je sais pas s'il existe encore, mais il y avait un fonds de venture capital qui était spécialisé dans la newsletter.
Je te prends en flagrant délit de modestie. Alors, non, j'exagère, mais je te dis juste qu'en 2015, je pouvais dire à des gens, l'email, il faut vraiment quand même bien y réfléchir. Voir aujourd'hui la manière dont sont faits les emails, alors c'est encore une autre question, mais des gens très, très intelligents et bien placés dans les médias qui me disaient, non, mais l'email. Oublie, enfin, on n'est plus en 2002, quoi. Donc, je pense quand même que après, tu vois les signaux, c'est toi qui les analyses, tu les vois par ce fond, mais ce fond, il peut aussi se planter. Vous faites des choix, mais je veux dire, je ne crois pas que ce soit si évident.
On fait un choix très low-tech, en réalité. On fait souvent le bon choix. Ouais, on fait un choix de grande simplicité, etc. Et ensuite, il se trouve que. Bon, ensuite, on a beaucoup post-rationalisé le succès de TTSO, puisque ça en est un. Mais ensuite, ce dont on s'aperçoit, c'est que il y a un truc qui est absolument unique dans l'email, c'est la relation que t'as avec les gens. C'est-à-dire que le fait d'être dans l'inbox de quelqu'un, c'est d'être invité dans son salon. À l'heure actuelle, vois tes réflexes quand t'as un spam, quand t'as l'impression qu'on t'a cambriolé. Et à juste titre, d'ailleurs. Donc le fait d'être voulu, invité, reçu et lu te donne un niveau d'intimité avec les gens qui te reçoivent, qui te et qui te lisent, qui n'a pas d'équivalent, qui n'a absolument pas d'équivalent, qui n'a pas d'équivalent dans le papier, qui n'a pas d'équivalent dans le surf. C'est un rapport différent et c'est un rapport avec un stade d'intimité supérieur. Mmh. Et ça, si tu veux, en termes de business, pour moi et pour nos clients, c'est un truc qui est évidemment extraordinairement intéressant, parce que on arrive à établir des connexions entre des cibles et des marques, puisque TTSO c'est aussi ça, qui objectivement ont assez peu d'équivalent.
Alors pas d'équivalent en quali, en quanti. Enfin, je veux dire, c'est intéressant. On viendra sur tous ces métriques. Donc tu disais on regardait. Donc tu.
Bon, on regardait de toi de manière. Non, vraiment, je vais même pas le citer, mais c'était une conversation avec un gars qui travaille dans le net aux États-Unis. Donc voilà. Et puis je suis reparti avec ma petite valoche et on a lancé ce truc avec exactement comme à vrai dire il faut lancer quelque chose. Pour le coup, on s'est pas planté. Je pense que dans les médias, qui est une industrie qui est décroissante, il faut pas lever du pognon tout de suite, etc. Il faut lancer le truc avec ta bite, ton couteau, et tu vois si le machin vole ou pas avec ton propre argent. Alors on l'a fait quelques mois. On a bien vu que les signaux étaient positifs. Je reviendrai sur ce qui nous a fait voir que les signaux étaient positifs. Et puis là, on a levé du pognon sur la première année.
Et là, j'insiste sur ce que tu viens de dire, parce que je pense que c'est hyper important. Nous, dans beaucoup de sujets qu'on gère chez Cosa Vostra avec nos clients, dans les médias notamment, c'est ce côté HelloTech. Et email, en fait, il n'y a pas d'équivalent, tu le disais, mais c'est hyper important. C'est-à-dire que quand tu fais un site internet, les gens, il faut qu'ils cherchent, il y a du search, ils passent par Google, il faut qu'ils le trouvent. Les gens ne vont plus sur Le Figaro, sur lemonde.fr naturellement, ils y arrivent par un article généralement qui est partagé par email, par les réseaux sociaux, par Twitter, par Facebook. Ils y arrivent par différentes manières, mais de moins en moins, les gens vont en accès direct sur des pages. De moins en moins, les gens vont en accès direct sur des applications, à part des grosses applications. En effet, Le Monde et Le Figaro sont des mauvais exemples, mais en tout cas, quand on est des médias de Ligue 2, je les citerai pas parce qu'on va m'en vouloir, mais en tout cas, on a une tendance à avoir une baisse des gens qui viennent naturellement chez vous. Donc, il faut les atteindre. Et pour les atteindre, c'est soit des push notifications, mais on est harcelé de ça et c'est très intrusif et on a tendance à saturer. Soit, comme tu le dis, l'email. Et l'email, finalement, ça coûte 100 fois moins cher qu'une application. Ça coûte, ce que ça coûte, c'est un effort éditorial titanesque, parce que faut pas le sous-évaluer non plus. Et puis, une bonne temporalité, une connaissance des personnes à qui tu parles, mais finalement, c'est quand même quelque chose d'assez, de très, très intéressant à travailler.
Ouais. Ouais, absolument. je ne peux.
Donc, du coup, tu lances. Alors, déjà, je note juste une chose, c'est que je recommande, j'aurai un lien de parrainage TTSO avec un euro à chaque ou 10 euros à chaque parrainé, je pense que je serai riche, mais je recommande assez vivement et vraiment je dis pas ça là, ça fait des années, mais du coup c'est quand même un peu un nom à la con, dans le sens où les gens me regardent, il y a toujours cet effet de surprise de comment t'as dit quoi, TTSO c'est pas mal, et du coup on le
voit, c'est TTSO en réalité, c'est devenu TTSO la marque, time to sign off, personne savait ce que ça voulait dire, objectivement c'est un idiome un peu obscur, c'est ce qui veut dire il est l'heure de décrocher. L'idée c'est le dernier email de ta journée de boulot, donc time to sign off, il est l'heure de décrocher. Et c'est le moment de ta vie qui bascule entre le professionnel pour aller dans le social. Et TTSO, l'idée de TTSO, c'était de te donner les bases d'une conversation sur l'actu, les billes pour être au courant, éventuellement briller éventuellement se faire marrer ou faire marrer ses interlocuteurs. Donc c'était ça TTSO.
C'est la crème de ce qu'il faut savoir pour
c'était le viatique pour la partie sociale de ta journée qui commençait comme ça.
Du coup, je précise, c'est envoyé vers 19h.
C'est envoyé à 18h45 tous les soirs du lundi au jeudi, et le vendredi, c'est envoyé à 17h45.
D'accord, parce qu'il faut partir plus tôt.
Ouais, parce que les gens partent plus tôt. Les gens n'ont pas envie de parler d'actu. D'ailleurs, on ne parle pas d'actu le vendredi. Et donc voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est vraiment tout ce qu'il faut avoir ou savoir dans la journée. Et ce qui est intéressant, on découvre des choses, surtout quand on a... J'ai toujours bossé dans la news, hein, de près ou de loin, dans le digital. Et donc, j'ai été un mordu accro total au notif, au machin, fallait que je sache tout le temps, immédiatement, etc. Et je pense qu'un jour, j'ai fait une overdose. C'est aussi pour ça que j'aime tant Time to Sign Off, c'est qu'il y a un moment, en fait, où moi, aujourd'hui, je suis capable de plus regarder de la news de la journée.
Mais de fait, ce qui est hyper satisfaisant dans nos lecteurs, c'est que on a des gens comme toi, bon alors qui sont quand même très informés, mais qui peuvent avoir fait une overdose et se dire bon maintenant je suis sur des rythmes plus lents, et puis moins frénétiquement
interruptif,
ouais. Etc. Donc il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui s'intéressent peu à la news et se disent c'est suffisant. Puis il y a des gens qui sont surinformés, qui sont sursollicités. On a quand même le gouvernement, ouais. Les journalistes, etc. qui sont par définition hyper informés. Ben ils trouvent quand même dans l'action de tri que fait TTSO un intérêt à l'action de tri et de ton un intérêt suffisant pour le lire plus souvent qu'ils ne le lisent pas.
Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu peux ou tu te permets ou tu revendiques même ce qui te tombe dessus de temps en temps de ne pas parler de certains événements qui sont majeurs, de je sais pas d'attentats ou de choses comme ça.
Attentats on traite.
Vous traitez, mais ouais. En tout cas, j'ai vu une ou deux fois où tu fais des retours en arrière sur certains événements en disant bon bah on s'est pris un backlash dans la gueule. Ouais,
c'est arrivé pour un. On a effectivement pas parlé de la mort de Johnny le jour où on annonce la mort de Johnny pour une raison très simple. TTSO, donc on l'a dit, arrive aux alentours de 7h du soir. La mort de Johnny est annoncée à 4h du matin. À 4h du matin, 15h avant la sortie de TTSO. Et là, comme jamais j'ai vu, et j'en ai parlé, je me souviens très bien, j'en ai parlé à Jean-Marc Vittori des Échos, qui m'a dit, j'avais jamais vu ça, même pour le 11 septembre, les antennes sont totalement, uniquement focalisé sur Johnny. Alors tout est dit, hein. Dans la journée, tout va y passer. Alors on va passer par évidemment l'annonce de la mort, etc. Et puis ensuite, les journalistes n'ont plus rien à dire. Donc ça va même jusqu'à je me souviens très bien, le Parisien avait interrogé un vendeur de chez Optique 2000 pour savoir ce qu'il pensait de la mort de Johnny. Donc là, j'ai dit bon, là c'est bon, c'est stop. On arrête. Donc à 7h du soir, nous on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et on fait une erreur de pas en parler, c'est évident. Mais on n'en parle pas, on est sur les news, etc. Parce que TTSO, c'est aussi ça, c'est le tri, et on pense, et on traite ce qui est important. Et en disant ça, c'est débile, parce que évidemment, la mort de Johnny est importante. Mais sauf que, rationnellement, c'est vrai ce qu'on dit. On dit, à 7h du soir, on n'a rien à apprendre à qui que ce soit sur la mort de Johnny, et le fait de dire on est très triste ne consolera pas ni la nation affligée et encore moins la famille évidemment effondrée.
Donc tu n'apprends rien à personne en l'annonçant, puisque tout le monde le sait. T'as rien à ajouter à ce qui existe,
mais en te disant ça, je me dis comment est-ce que j'ai pu être aussi con pour prendre cette décision, parce que c'est moi qui la prends, et sous-estimer simplement l'aspect cathartique de oui, nous aussi on est bien triste de perdre ce type. On n'était pas fasciné par le chanteur, mais évidemment tout le monde adorait ce type avec qui tout le monde avait grandi, qu'on avait toujours connu et qui avait un côté rocker maudit, enfin pas un côté rocker destroy que on ne pouvait qu'aimer. Donc évidemment je fais une erreur.
Moi je suis pas d'accord. Enfin je veux dire vu de l'extérieur en tant que lecteur, là évidemment là t'as ton rôle de red chef mais je veux dire moi quand t'as fait ça, j'ai compris la décision et je trouve que je me suis dit
écoute, donc du coup le lendemain, alors là c'est pas difficile, on a envoyé TTSO et là moi je suis copié sur un certain nombre d'adresses email, enfin de nos adresses email, donc à contact TTSO, je suis copié et là mon truc faisait ting 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 tout le temps, je me suis dit, ouais, voilà, il y a quelque chose qui se passe et donc on a fait une lettre le lendemain expliquant les raisons.
Le midi, non hein, vous l'aviez, c'est une spéciale, c'était pas dans,
non,
c'était dans le TTSO
du lendemain et on fait une lettre, on la poste sur Facebook d'abord, donc tu l'as peut-être vu sur Facebook d'abord et une lettre où j'explique les raisons de la décision et puis voilà quoi, je veux dire le truc est passé et effectivement ça a été super commenté sur Facebook, je me souviens, et t'avais une majorité des gens qui disaient on comprend parfaitement etc, mais t'avais une portion significative des gens qui disaient vous avez complètement déconné, etc.
Tu perds des abonnés comme ça.
Non,
à la marge.
Non, peut-être à la marge, ouais, mais non, pas du tout.
Quel succès, je veux dire, c'est un marqueur intéressant quand t'as des gens, c'est un peu comme être sélectionneur à la place du sélectionneur, c'est-à-dire quand t'as des gens qui te lisent tous les jours, qui t'interpellent virtuellement, en tout cas en te disant ça. Il y a un côté intéressant, c'est qu'ils s'approprient la newsletter.
Ouais, mais il y a un fort degré d'appropriation. Les gens sont adorables avec nous. En 6 ans de TTSO, les lettres d'insultes, on a eu une lettre de menace. Et les lettres d'insultes ou les emails d'insultes, etc., se comptent sur les doigts d'une seule main. Et en revanche, on a entre 4 et 10 emails par jour de gens qui nous disent j'adore, etc., alors qu'ils relèvent une typo, une faute d'orthographe, etc., mais parce qu'on a une sorte de jeu avec
J'allais venir là-dessus, tu dis les gens sont hyper sympas, vous êtes sympa avec vous-même,
on fait un peu d'autoflagellation, mais le fait est qu'on a une équipe courte, que les bouclages sont très souvent très tendus, parce que le truc est fait jusqu'au moment, que la relecture peut souffrir, que je suis très mauvais en orthographe,
Comment tu peux être mauvais en orthographe?
Je suis très mauvais en orthographe. C'est très identifié. Je l'ai dit au patron de l'école alsacienne l'autre jour. Je suis nul en orthographe. Alors il me dit, mais t'es de quelle année? Alors je lui dis, j'étais à l'école. Il me dit, tu es la génération sacrifiée. C'est-à-dire qu'on était passé au-delà de la méthode globale. Ils avaient fait il y a eu 4 ou 5 ans d'apprentissage. Il me dit, oui, effectivement, tu es totalement désorthographié. Et c'est exact. Donc je suis pas bon en orthographe et ça se sent l'équipe est un peu meilleure que moi en orthographe, mais marginalement meilleure. On n'a pas de très bonne procédure de relecture
et ça sur, je veux dire, sur Sciences Po et des choses comme ça, des choses que t'as pas
panélisé. Je suis pas désorthographié. Quand je dis que je suis désorthographié, c'est évidemment une énorme exagération. Non, et puis en plus à un moment j'ai décidé de faire des efforts, donc j'écris, mais on publie 220 numéros par an. Dans chaque numéro, tu as 6 articles. Tu vas en laisser passer. C'est sûr que tu vas en laisser passer.
Et on n'a
pas de relecteur parce que parce qu'on privilégie le bouclage, quoi. On privilégie le fait de pouvoir se retourner, etc. Donc on n'a pas de relecteur. Je vais finir par en mettre un, mais.
Et du coup, donc le petit jeu, c'est que depuis quelque temps, tu donnes à une association.
Ouais. J'ai décidé que nos fautes d'orthographe serviraient à quelqu'un, et donc on donne 200 euros. Alors sur les grosses fautes d'orthographe, parce que sinon ça coûte trop cher. mais sur les grosses fautes d'orthographe, on donne 200 euros. Alors, on a donné beaucoup à l'UNICEF. au point que l'UNICEF m'a appelé en me disant surtout n'arrêtez pas de faire des fautes d'orthographe. Ah, et là cette année j'ai mon copain Thibaut Saint-Phal qui est le patron de Uber, hein, qui est mon client aussi, Thibaut a pris la présidence d'une association pour les autistes qui construit des lieux de vie pour les autistes, qui s'appelle les Amis d'Arthur. C'est une association absolument formidable, et donc j'ai dit que cette année tous nos dons allaient aux Amis d'Arthur. Il y en a eu un il y a encore deux jours annoncés dans TTSO.
Donc t'as Uber et tu as plus récemment un chauffeur privé aussi.
Et
c'est vrai que tout ça, ces spécificités de lecteur dont je fais partie, qui sont intéressantes, et l'originalité que vous avez, la transparence que tu as chez Time to Sign Off. Ouais. Du coup, tu lances en quelle année ?
Septembre 2011. Je fais des numéros zéro. Je commence à écrire parce que j'avais jamais écrit. J'aimais bien écrire, etc. Et puis j'aime bien faire marrer. Je commence à écrire l'été. Je fais des numéros. Je fais une sorte de petit comité de lecture avec une trentaine de personnes, des journalistes. Peu importe d'ailleurs, des gens divers et variés.
Tu n'es pas journaliste, hein, toi?
Non, pas du tout, non. Et puis le feedback est assez positif. Et puis donc je lance en septembre avec zéro abonné. Et c'est là où t'as des signaux qui sont des signaux uniquement qualitatifs. Enfin, j'ai zéro abonné. On lance.
T'as une landing page, t'envoies à tes 30 personnes.
Exactement, j'envoie à mes 30 personnes en leur disant soyez prosélytes. Le premier coup de téléphone que je reçois qui me fait me dire ah tiens, c'est je lance en septembre. En octobre, Emmanuel Chin m'appelle et me dit que je connais absolument pas, et me dit dis donc ton truc est génial, il faut absolument qu'on se voit, qu'on en fasse une émission de télé. Alors je dis très bien, je vois Emmanuel Chin, et on s'est jamais devenu une émission de télé. Mais enfin, je suis devenu très copain avec Emmanuel, qui est un type absolument merveilleux, et donc voilà, ça c'était en octobre. En novembre, Stéphane Soumier m'appelle et me dit votre truc me fait bien marrer, venez m'en parler un matin sur BFM Business. Sur BFM Business, je vais en parler chez Stéphane. Enfin, je le connais pas, hein, chez Stéphane Soumier, et je prends 600 abonnés dans la journée. Je me dis ah super, etc. Voilà. En novembre, Laurent Guimier, qui est maintenant le patron d'Europe 1, mais qui à l'époque était le patron de la tranche du soir d'Europe 1, me dit « Votre digital, truc est super, ouais. Venez donc prendre un café avec moi, qu'on en discute. » Et là, on en discute, et ils me disent « Ce qui serait génial, c'est que tu viennes faire un… » Et à l'époque, il était patron de Déclic et des claques, qui était l'émission du soir sur Europe. Il me dit « Viens faire une chronique dans Déclic et des claques. » Et puis la saison était commencée, donc j'ai pas pu commencer cette saison, mais j'ai fait 2 ans, les deux dernières années de Déclic et des claques. J'avais une chronique tous les soirs dans Déclic et claques. Donc
voilà. Présenté comme Romain Dessal, TTSO.
Ouais, exactement. Présenté comme Romain Dessal, TTSO. Mais à l'époque, on était déjà en rythme de croisière de croissance. Donc c'est, l'effet était pas aussi aussi boosting qu'on aurait pu l'imaginer. Mais j'ai adoré.
Un pont entre l'époque et aujourd'hui, on va revenir en arrière après, mais aujourd'hui, si tu devais dire une moyenne enfin, les bonnes journées de croissance, c'est combien de croisières?
Non, on croit toujours au même rythme. Donc, une très grosse journée de croissance, ce sera 200 abonnés en plus.
Énorme.
Une petite journée, une journée standard de croissance, ce sera une cinquantaine d'abonnés en plus. On continue à croître. Mais au même rythme. Au même rythme. Il n'y a pas eu d'effet de cliquer, ce que tu aurais pu penser, en réalité.
Il y avait plusieurs pays, il y avait plusieurs choses. Il n'y a pas eu de.
Non, j'avais lancé aux États-Unis à l'époque parce que j'étais entre les États-Unis et la France, et puis ensuite j'ai réorganisé le capital parce que après avoir vu que ça marchait bien, je me suis dit bon, il faut que je sois, n'ayant pas la fortune que je mérite, j'ai dit il faut que tout le monde ait de la soupe dans son assiette, donc il faut que je lève du pognon pour me payer tout le temps d'une part, et d'autre part pour pouvoir embaucher mon premier salarié. Ce que j'ai fait. Alors là, c'est assez marrant parce que.
Parce qu'au début, les 100 premières newsletters, elles partent toutes seules ou les.
Elles partent toutes seules, c'est-à-dire.
Non, enfin, c'est toi, il n'y a que toi. C'est toi qui les envoies. C'est toi qui les écris, t'es tout seul.
Oui, j'écris. Oui, le début, ouais, je suis tout seul. Ouais.
Combien de temps?
Tout seul, ouais. Je sais plus. Mais peut-être quand même pas loin de 6 mois. Hein.
Et tu fais pas d'argent, zéro?
Non, je fais zéro, pognon. Et donc, mais tu vois, c'est assez court parce que Je lance en septembre 2011. Je vois que ça marche. J'écris deux articles dans TTSO. Un article sur, à l'époque, le private equity dépensait plus d'argent qu'il n'en collectait depuis 2 ans. Donc c'était une étude des Échos qui disait ça, et je me souviens très bien, je fais un article qui est quoi, juste au moment où TTSO cherche à lever du pognon, on s'aperçoit qu'il y en a de moins en moins, etc. Donc hop, je fais cet article, et une semaine après je fais un article sur Facebook qui à l'époque allait rentrer en bourse 100 milliards de dollars, je m'en souviens très bien, et je conclus l'article par: à ce prix là vous feriez mieux de mettre votre pognon chez TTSO.
Je m'en souviens.
et le truc marche, c'est à dire que le téléphone sonne, parce qu'à l'époque déjà on devait avoir, je sais pas, 2000 abonnés, 3000, 5000 abonnés. Mais on avait déjà une surreprésentation dans les professions de la finance, et les mecs m'appellent, ils me disent: ah écoutez, on adore TTSO, si on peut vous aider, etc., en love money pur, mais vraiment, enfin tu vois, il y avait pas le début d'un business, enfin si, il y avait un business model, il y avait totalement un business model identifié, mais il y avait pas le début d'un rond qui rentrait dans cette boîte. Bon bref, j'ai eu 4 offres en 15 jours. Quand même complètement dingue. Et puis j'en ai choisi une. Donc j'ai pris Gravitation
qui est le fond de
Charles Beck BD. Ouais. J'ai pris Gravitation, ce dont je suis très content, et ce qui fait que encore aujourd'hui Gravitation a 20% de la société éditrice de Time to Sign Off, et que j'en ai 80%, ce qui est bien.
Ouais.
Tu dois être comme ça, t'es maître chez toi.
et du coup, t'as eu une incartade américaine là-dedans.
Au début, il y avait une édition New York qui existait, qui était rédigée par une fille de chez Wired, etc. Et puis quand j'ai réorganisé le capital, j'ai séparé le truc, je l'ai laissé à des associés américains qui s'en sont pas occupés. Moi, j'étais en France, etc. Donc le truc est assez vite plié aux US, et donc ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ouais, absolument.
D'accord.
Ouais.
Et donc il y a quand même une des spécificités, alors, à la newsletter, c'est que tu sais qui ouvre tes newsletters.
Bah, je sais qui ouvre, pas.
Moi j'ouvre ta newsletter, tu le sais, non?
Bah, si je vais chercher ton, si j'ai oui. ton email et que je vais chercher ton profil, oui, je sais, oui. Je connais ton taux d'ouverture, oui, absolument.
Donc, tu peux savoir que tel ministre ou telle personne ouvre et te lit, quoi.
Oui, oui.
C'est pas que je lui envoie, c'est je sais que il reçoit ma newsletter, c'est une des énormes forces de Time to Sign Off, c'est que très tôt. En termes d'influence, c'est devenu un gros média d'influence.
Ouais, on a été tout de suite appelés. Bizarrement, le premier politique qui se soit, je sais pas si je devrais le dire, le premier politique qui se soit manifesté, c'est Fillon, qui était à l'époque premier ministre. Oui, puisque j'ai fait c'était les derniers mois de Sarkozy. Donc Fillon avait, enfin l'entourage, pas Fillon directement. Et donc voilà, et puis ensuite je donne pas les noms, mais ensuite bon voilà, et puis alors, les cabinets appellent en disant tel ministre était Furax, tel premier ministre était Furax, etc. Se marre bien d'ailleurs. Enfin bon, tu vois que tu es lu, et puis ensuite tu commences à spotter les gens, et puis tu vois que ton influence, enfin que tu es lu par des gens dont on continue à être absolument ébahi par la stature du truc, même s'il y a encore des béances gigantesques dans la base de données, qu'il y a des gens qui devraient évidemment lire tous les soirs depuis 5 ans et qui n'ont jamais entendu parler de nous, etc. Donc bon, ben voilà.
Ouais, grâce à la génération du Cure Selfie.
Bien sûr.
Et du coup, très bien. Et ça veut dire que quand même là-dessus, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que tu es en plein dans le mille pour ces gens-là, parce qu'ils ont un rythme effréné de travail et de. Donc, du coup, il y a aussi un peu le fait que je pense que tu réponds à un besoin pour eux. Mais ça veut dire que du coup, tu vas intéresser assez vite un certain nombre d'annonceurs ou de personnes qui veulent faire un peu d'influence ou émerger.
Absolument. TTSO a toujours été conçu comme un business avec la partie native advertising absolument identifiée depuis le début.
Tu peux expliquer le native advertising?
Le native advertising, c'est simplement écrire des sujets pour des annonceurs. Donc nous c'est très clair, hein, c'est le cinquième sujet, il y a six sujets dans TTSO. L'avant-dernier sujet, tous les soirs, il y a le nom de l'annonceur qui apparaît dans le donc il y a aucune espèce d'ambiguïté. Le nom de l'annonceur apparaît dans le titre de la rubrique, etc.
Mais on c'est écrit... pas marqué publier et partager, etc. Mais bon, si t'es pas idiot, tu sais que c'est quand même et ça revient toutes les semaines et voilà.
Ouais, absolument. C'est des rubriques récurrentes, c'est jamais du one shot, etc. Et donc on fait donc on vit comme ça et ça. Le
Et il y en a pas trop. Hein.
Je veux. Il y en a qu'un seul.
Il y en a qu'un seul.
Il y en a qu'un seul tous les soirs.
Il y a des bandeaux qui apparaissent.
Oui, il y a des bannières. Ouais. Mais il y a qu'un seul annonceur. Il y a qu'un seul annonceur toujours à la même place tous les soirs. Et donc, je sais plus quelle était la question.
La question, c'est que grâce à ces personnes influentes, parce qu'évidemment, on parle de politique, mais c'est des patrons du CAC 40, c'est vraiment beaucoup de personnes. Finalement, tu te dis, si je veux faire passer un message à tous ces gens-là,
Et j'étais assez surpris de la manière dont ça a été vite perçu par les annonceurs. Parce que je connais quand même pas mal les médias, et je me disais, notre taille est vraiment trop petite. Je me souviens très bien, mon premier, je sais pas si c'est mon premier client, mais mon premier client important était le Bon Marché. Et le directeur marketing du Bon Marché m'appelle parce qu'il lisait TTSO et me disait j'aimerais bien vous voir, etc. Moi évidemment j'étais hyper intéressé, j'arrive avec une idée de campagne en me disant je vais retarder dans ma présentation le moment où je vais lui parler des chiffres parce que je devais avoir 8000 abonnés ou un truc comme ça et ouais. il va me sortir de la réunion en me disant revenez me voir quand vous avez des chiffres sérieux. Et je me souviens très bien, j'attends le dernier moment pour lui dire mes chiffres et rien ne se passe. C'est-à-dire que Guillaume Gélusseau, qui était le patron à l'époque du marketing du BM, comprend parfaitement le truc et se dit de toute façon ces 8000 personnes là je les veux absolument parce que c'est mon cœur de cible, j'ai aucune déperdition dessus, etc. Et
quand
on a fait la campagne.
Quand t'as dit rien ne se passe, j'ai cru qu'il avait droppé. C'est complètement con parce que en fait 8000 personnes quand elles sont très enfin exactement dans ta cible, c'est énorme en fait. On vient d'un univers média où on arrosait comme des malades en se disant si je veux toucher 8000 personnes, je dois en arroser 4 millions. Aujourd'hui, une possibilité d'être beaucoup plus précis quand même.
Ouais. Alors bon, maintenant les choses ont un peu changé parce qu'on commande à plus de 100 000. C'est un peu différent. Mais à l'époque déjà, tu vois, et Guillaume, il avait acheté la campagne, il en était très content. Le BM est un de mes vieux clients récurrents maintenant depuis.
Exactement.
Absolument.
Et du coup, ça impacte. Moi, il y a des tas de. C'est vrai que j'ai des tas de Enfin, tu vois, je peux citer certains des annonceurs que tu as eu, des AXA, des Marco Vasco que découvert grâce à toi, évidemment, je t'ai parlé d'Uber, chauffeur privé, en fait, ce qui est intéressant dans ton modèle, c'est que tu leur crées du contenu, vous le co-créez, je sais pas, tu vas me dire, mais qui est intéressant.
Mais c'est exactement ça l'idée, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que c'est exactement ça l'idée, c'est je le dis à mes clients, mais je le dis en absolue sincérité à mes clients. Les clients font totalement partie de la valeur de TTSO. Alors, ils jouent des rôles différents. Mais de toute façon, moi, je pense que le modèle publicitaire est cassé, que plus personne ne veut rentrer dans la relation infantilisante qu'est la publicité, qui est tu m'accordes 30 secondes d'attention contre un peu de comédie, un peu de musique, de la couleur, une fille en maillot de bain, etc. Personne ne veut rentrer. C'est beaucoup trop infantilisant comme truc. C'est vécu comme une agression, en réalité, par les gens. En revanche, il y a absolument aucune fatalité au fait qu'une marque n'ait pas un dialogue constructif avec les adultes que sont ses clients. Et moi, je suis totalement convaincu que c'est ce qu'on fait et j'adore faire ça. La partie la plus créative, la partie où il y a au moins autant d'intelligence, quel que soit notre niveau d'intelligence, mais où on met au moins autant d'intelligence dans les trucs qu'on fait avec les annonceurs que dans un article sur la BCE ou sur la dernière outrance de Trump, tu vois.
Et c'est sûr que moi je le zappe jamais, alors que tu me mets un pré-roll sur une application iPhone.
Évidemment.
Je regarde ailleurs, je fais autre chose, je me brosse les dents, j'occupe des enfants, fais autre chose. C'est vrai que moi je les lis. Donc non, je suis c'est une manière intelligente de parler à des gens et de faire de la pub. Et du coup aujourd'hui, donc le modèle, c'est que tu ça a toujours été ça d'ailleurs, tu vends un jour.
Je vends un jour par semaine, c'est jamais moins d'un mois, on fait jamais de one shot parce que justement je veux qu'il y ait aucune ambiguïté, je veux pas qu'il y ait un article qui apparaisse un jour comme ça, on se dit article, etc. Non, c'est toujours avec un nom de rubrique, le nom de l'annonceur dans la rubrique, le à la même place, etc. Et le format, c'est un jour par semaine pendant un mois. C'est le format minimal. Ensuite, t'as des annonceurs qui sont là à l'année.
Le mardi de février, les quatre mardis de février.
Exactement. Les quatre mardis de février, ça sera chauffeur privé ou Google ou Berluti.
Et s'il y en a cinq, tu vends plus cher.
Non, je suis.
Faut choisir le bon mois.
Exactement, je suis extrêmement.
Tu réponds à une question que me pose depuis très longtemps.
Non, non, je ne vends pas plus cher. Les bons mois, you're lucky.
D'accord. Du coup, c'est pas mal. Et alors, est-ce qu'il y a des jours où t'as plus d'ouverture ou moins d'ouverture?
Non. Les ouvertures sont constantes, mais elles montent. Sur le week-end, comme on fait le numéro du vendredi, plus personne n'a envie de parler d'actu. Donc, d'accord, on fait juste un premier sujet qui est sur l'actu, un deuxième sujet qui est sur une actu, mais généralement, on essaye de pas faire d'actu négative. On n'y arrive pas toujours. De pas faire d'actu négative, d'avoir une actu un peu positive et assez même en dehors du rythme quotidien de l'actu. Et puis ensuite, c'est plus du tout de l'actu. On fait la to-do du week-end, on fait une vidéo un peu érotique, on fait une recommandation de disque de sortie de la semaine.
Vidéo érotique en essayant de sortir aussi du côté masculin uniquement.
Ouais, voilà, ça on pourra en parler, c'est notre croix, la vidéo érotique.
Ouais.
Donc le vendredi, comme tu n'es pas dans une espèce d'urgence de la news, tu vois que ton taux d'ouverture monte surtout le week-end, ce qui est assez naturel. C'est plus un taux d'ouverture de mag, si tu veux.
Okay.
Et voilà.
Ok, en deux mots aujourd'hui, alors ce qui est assez marrant, c'est que t'as un business qui est quand même assez florissant, t'es quand même très loin de cette partie que je connaissais pas bien, cet énorme bureau à Boston qui me fait rêver déjà, pas bien,
oui, ça, en voir une
photo. Non, mais je dis pas que ton bureau est moche, je dis juste que
en l'occurrence,
il est chouette ce bureau, non, je dis juste que t'es de cette énorme structure, de tout ça, t'es vraiment là en mode très réduit, vous êtes deux, trois...
On est cinq.
Cinq, d'accord,
ouais,
ok.
Ouais.
À monter le business tous les jours et aujourd'hui t'es content comme ça, enfin j'ai l'impression.
Ouais, je suis très content. Pour moi, ce qui est très important, c'est la liberté. Donc il se trouve que je suis le créateur et le patron d'une boîte qui m'appartient à 80%, qui me paye et paye convenablement les gens avec qui je travaille et crache pas mal de cash. Donc mon niveau de liberté est total. Ouais.
C'est-à-dire, intellectuellement c'est intéressant.
Ouais.
T'es pas dans un truc relou.
Je vais le matin en sifflotant. En ce moment c'est dur. L'actu. Demande à Thomas qui est juste à côté de nous. En ce moment l'actu, il y a pas d'actu, c'est mou.
On sent bien. C'était passionnant.
C'est pas des sujets pour nous. J'ai pas de mépris pour le mariage pincé. C'est pas des sujets pour nous. Donc en ce moment c'est un peu dur, je trouve.
En termes d'influence, tout ça, c'est quand même un énorme succès aussi, parce que je veux dire, tu vois, toutes ces énormes maisons, ces médias. J'avais ce discours avec quelqu'un où, là, récemment, on a déjeuné dans différents médias, dans ce qu'ils appellent les clubs, tu vois ce que c'est, là où ils reçoivent les personnalités, etc. Ouais. Et tu te dis, mais en fait, c'est que c'est des choses d'un autre âge, des moments d'un autre âge. Et là, toi, t'es sur un truc qui est à la fois très start-up, très agile, à la fois qui fonctionne au niveau modèle économique, à la fois qui est intéressant au niveau intellectuel, intéressant au niveau de l'influence. Enfin, je sais pas, moi, vu de l'extérieur, je me dis c'est un carton plein, quoi.
Écoute, je touche du bois. Merde, la table est en marbre. Ah, voilà un cadre. Je touche du bois, mais on a un bol monstrueux. On a un bol monstrueux, c'est vrai. Tu l'as résumé. Ça marche d'un point de vue économique. C'est extraordinairement valorisant, d'abord parce que c'est intéressant intellectuellement. On a des problèmes qui sont des problèmes intéressants, même si je trouve ça dur, ce que je te disais en ce moment. Notre problème de rendre un truc intéressant tous les soirs pour nos lecteurs, dont on a l'impression qu'ils sont une extension de nous-mêmes et que même eux-mêmes nous voient comme une extension d'eux-mêmes. C'est un problème super intéressant. Alors ça peut être dur, hein. Mais on a un métier qui est super et puis l'accès qu'on a est hallucinant. C'est hallucinant, je veux dire. c'est dingue de par qui on est lu, par qui on est aimé. Enfin, tu peux pas imaginer de qui on reçoit des témoignages de en plus très 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 souvent, bien plus souvent.
Il y en a
que,
pas que tu peux citer un ou deux, là.
Non, je sais que je cite personne. Mais enfin, c'est hallucinant, c'est totalement hallucinant.
Et alors dernière question sur le produit. Après, je voudrais que tu m'expliques très vite comment tu t'organises et puis je vais te laisser vaquer à cette newsletter qui doit être produite aujourd'hui. Vous sortez pas d'infos, enfin c'est alors j'ai d'ailleurs elle est double cette question forcément parce qu'on a eu une expérience ensemble où sans rentrer dans le détail mais on a voulu essayer d'obtenir quelque chose qui te permettait de d'avoir une sorte de certificat d'état qui te mettait et en fait on t'a dit que t'as eu une réponse qui disait que tu faisais pas du journalisme.
Ouais, je suis pas source primaire, mais c'est vrai, c'est en l'espèce c'est totalement exact, on n'est pas du tout source primaire de d'information. Alors il se trouve que les sources primaires d'information sont surabondantes, c'est un problème. Il y a beaucoup trop d'infos. Aujourd'hui je sais pas quelle va être la grosse news de la journée, enfin disons qu'aujourd'hui ça va être sur la loi sur les fake news qui est votée, qui est votée aujourd'hui, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est la grosse news de la journée. Il va y avoir des articles partout, le même article partout. Il va y en avoir un sur, tu fais autant de noms de médias et tu auras ton article. Donc, il se trouve que la matière est surabondante. Donc, nous, notre métier est un métier de tri et un métier de ton. Donc,
et de synthèse, c'est ce que tu disais. Ouais. Je reviens sur ce que tu disais au tout début de cet épisode. C'est-à-dire que t'es pas forcément dans l'analyse, mais moi, je trouve que le talent, et c'est du journalisme aussi, non?
Oui, alors ça, c'est la grande. Alors, il faut que t'en parles à Jean-Marc Vittori, qui est un type formidable, qui est éditorialiste aux Échos. Et Jean-Marc, chaque fois que je le vois, il me dit « Si, c'est très clair, t'es journaliste, parce que le journalisme, c'est quatre trucs. » Alors, j'oublie chaque fois. Mais il a quatre critères du journalisme et il m'explique « Tu fais ces quatre trucs. Donc, il faut lui demander, c'est très, très au point, c'est très marrant. D'accord. Je ne sais pas si ça fait de moi un journaliste ou pas. Mais en revanche, c'est très intéressant.
On va lui demander, on le mettra dans les notes du podcast, si tu veux bien m'aider.
Demande-lui, il est adorable en plus.
D'accord, mais c'est vrai que là-dessus, c'est quand même intéressant de se dire, plutôt que de prendre des dépêches et de les rendre plus longues, avec un peu d'analyse ou même pas, vous avez une tendance à prendre les infos et les rendre plus courtes.
Ouais. Je te dis, nous, on fait deux trucs sur la news. On trie et on fait du ton. Donc, mon modèle, c'est le triton.
Et on te donne des news, du coup. T'as déjà sorti des choses qui n'étaient pas sorties ailleurs.
Non. Et ça s'est très peu passé. Il y a quelqu'un qui a essayé de faire ça. Là, les boîtes d'influence m'appellent beaucoup, etc. Mais on fait rien. Et puis je suis, et puis encore une fois, moi je suis totalement indépendant. Je suis totalement indépendant. Je veux dire,
économiquement, pas politiquement.
Ouais, absolument. Moi, j'ai aucune.
On essaie de t'associer un peu.
C'est un site d'extrême droite qui a dit qu'on était le média absolu du macronisme. C'est très difficile parce que nous-mêmes, on ne sait pas où on habite. Sur nos gros sujets politiques ou péripolitiques qui sont la macroéconomie on a une position qui est ultra libérale en microéconomie, c'est-à-dire il faut laisser la liberté d'entreprendre, laisser la liberté aux entrepreneurs, arrêter d'emmerder, et on est ultra keynésien en macroéconomie. Donc on est un peu à la gauche de Mélenchon en macroéconomie. Donc on est difficilement
classable. Et
très bien. Aujourd'hui, on va faire un article central de philo d'ailleurs aujourd'hui.
Bon, très bien. Et du coup, ta journée, toi, elle est organisée, si je comprends bien, c'est matin business, après-midi éditorial.
C'est exactement ça. L'équipe est organisée exactement de cette manière. T'es doublé sur le commercial, t'es doublé sur l'éditorial.
Mais il y en a qui bossent le commercial et donc
ouais,
que
absolument,
sur l'éditorial.
Absolument. Ouais.
Et donc toi, tu fais des rendez-vous business le matin, tu vas rencontrer des gens. Ouais. C'est vrai que nous, quand on se voit, je suis pas dans la partie édito, donc c'est toujours souvent le matin à 9h ou avant 8h30 même. Ouais. Et l'après-midi. Et du coup, tu finis ta journée à 7h, à 6h45.
Ouais, à 6h45, c'est terminé. Alors, j'essaye de pas rebosser après le bouclage. Il faudrait demander à Thomas, mais je suis pas très bon. J'y arrive pas. Mais à un moment, j'étais meilleur que ça. J'essaye de pas rebosser après le bouclage. Donc voilà. En plus, le bouclage, c'est toujours assez intense. Donc, tu sors de là,
Et donc, du coup, voilà. Et tu prends quelques semaines de vacances par an, et puis basta, quoi.
Ouais, comme tout le monde,
comme
ouais.
Comme tout le monde.
Ouais,
ok.
Absolument.
Et ton orga, t'as des petits secrets, des petites choses, je sais pas, des applications, des choses qui te changent la vie pour écrire, pour garder en tête des choses.
Notre ligne de vie, nous, c'est Twitter. Donc, ouais. On voit, c'est très, 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 très intéressant d'ailleurs, parce que moi, j'ai 6 ans d'expérience de Twitter derrière moi. Et tu vois absolument Twitter, tu vois l'évolution de Twitter, c'est devenu, c'était très en avance, t'avais quasiment, t'avais quelques heures d'avance sur la news avec Twitter il y a quelques années, c'est devenu très mainstream et tu as l'impression que ça se, je veux pas dire s'atrophier parce que je pense que Twitter enfin a l'air de bien marcher etc. Mais tu vois que c'est ouais que Twitter évolue en ce moment, j'aurais du mal à le qualifier, mais que Twitter est dans une nouvelle phase d'évolution en ce moment. Mais nous, de fait, on sert de Twitter comme d'un fil AFP.
T'es pas abonné à l'AFP?
Non.
Et du coup, pour ton orga, du coup, c'est matin généralement petit déj business.
Ouais.
Déj business aussi?
Non, je fais jamais de déj.
Jamais de déj. Et
que vois-je. Ouais,
et du coup, après, tu vois toutes ces personnes jusqu'à...
après, à 11h, à 11h, où que je sois, il y a un appel ou une question à Thomas, qui est donc dans le bureau à côté de nous. J'ai dit, bon, alors on a quoi comme centrale? Donc ça, c'est le sujet central que j'aime bien, sur lequel j'aime bien avoir une idée tôt. Généralement, on ne l'a pas. Et puis ensuite ça va devenir des questions de plus en plus pressantes en disant putain trouve un truc. Et moi je cherche de temps en temps, je cherche assez peu de news, on écrit tout, je relis tout, et voilà, ouais, c'est un bouclage, quoi.
D'accord. Et du coup, il y a pas de conf de rédaction, elle est en permanence.
Mais enfin, on va pas non plus donner des titres trop ronflants à une réunion de 3 personnes, tu vois.
D'accord.
Donc c'est le processus est plus fluide.
Et tu bosses que à Paris? Enfin, je veux dire, ça t'arrive d'être à, je sais pas, à Toulouse, à Marseille,
ouais,
à
absolument,
je sais pas où,
ouais,
et de bosser.
Ouais, ouais,
et
ça peut m'arriver. Oui, ça peut m'arriver. Je le fais. Je pourrais pas le faire de manière permanente, ne serait-ce que parce que la partie commerciale se ferait. Et puis même j'ai tendance à penser qu'il faut être à Paris pour je veux pas faire excès de parisianisme, mais bon, néanmoins, oui, ça m'arrive de bosser remote, mais je trouve pas ça hyper confort.
D'accord. Question d'habitude. Ok. Et du coup, je sais pas, d'autres outils, d'autres. Tu fais du sport, tu fais de la méditation, tu fais du.
Alors, jamais de sport.
D'accord. Comme
Winston. Absolument jamais. Ouais. Mais c'est pas vrai. Hein. Winston Churchill était un gigantesque sportif, très très grand joueur de polo, un athlète complet. Bon, ensuite, il prend un peu de poids, mais.
Et tu le revendiques ou c'est juste.
Non, mais je fais pas de sport. J'aime pas ça. Donc voilà, je fais pas de sport. Bon, ensuite, je fais de la cuisine et.
Oui, vous êtes pas mal cuisine. Hein. Monsieur.
Ah
ouais. TTSO,
ah oui, on a pas mal
vraiment des lecteurs à manger.
Ah oui, bien sûr.
Dîner chez
toi. Ah ouais, c'est hyper sympa. Ouais. C'est d'accord. Hyper sympa. On en a pas fait depuis cet hiver, mais ah oui, j'adore. On fait les apéros TTSO, on fait les avec les lecteurs, on fait. Oui, c'est hyper sympa.
Ok. Écoute, les points d'accès sont assez simples. Alors on peut évidemment, tout le monde doit s'abonner à Time to Sign Off. Donc c'est timetosignoff.fr.
Mm-hmm.
TTSO, tu l'as pas .fr?
Non, TTSO, ça appartient à un artisan plombier de la banlieue parisienne. J'ai jamais proposé de lui racheter, mais je devrais le faire. Et donc voilà, non, non, mais enfin, si tu tapes TTSO dans Google, le premier lien qui apparaît, la page entière, c'est nous.
Toi, Romain, on peut te suivre ou t'ajouter peut-être sur LinkedIn ou sur Twitter aussi. Peut-être.
Alors sur LinkedIn, je ne réponds oui qu'aux gens que je connais.
D'accord.
Donc parce que je trouve que sinon ça sert à rien. Donc voilà. Sur Twitter, j'y suis pas. En revanche, on peut s'abonner à Time to Sign Off sur Twitter. C'est @signoffparis. Ça serait sympa d'ailleurs de s'abonner parce que c'est consternant. On doit avoir 5000 abonnés.
D'accord.
J'en suis à me demander si je vais pas acheter des fake followers. Parce que j'en peux plus. Je trouve ça trop humiliant. Et voilà. Et puis on a une page Facebook aussi.
D'accord. Ok. Bon, écoute, je te remercie pour ce bel éclairage. Je te dis un grand, grand bravo pour Time to Say Neuf. J'ai vraiment passé un bon moment. J'aurais plein de questions à te poser encore, mais on fera ça une autre fois. Donc suivez tous bien Time to Sign Off. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous rappelle que ce qui est important pour moi, c'est de s'abonner à Génération Do It Yourself, notamment sur iTunes si vous êtes sur Apple ou ailleurs si vous êtes sur Android, et puis de partager et de noter le podcast 5 étoiles, pas 4 parce que 4 c'est pas bien, et noter le podcast 5 étoiles parce que ça le fait remonter aussi dans les classements Apple notamment. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, à bientôt sur Génération Do It Yourself.
Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire, ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@causavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.